Donc partie 1, c'est-à-dire la première confrontation. Là donc je passe sur donc les persécutions, c'est-à-dire vous savez le pharaon qui veut faire tuer parce que les voilà, il y a. Oui, alors je vous ai mis dans la colonne à droite une conséquence pratique de la colonne de gauche. On peut en trouver d'autres, mais là c'en est une. C'est on a l'impression que les Hébreux, c'est les pauvres gens qui sont persécutés, mais on voit dans le livre des Nombres qu'ils se sont habitués au mode de vie égyptien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont, ils râlent contre Moïse parce qu'ils sont dans le désert à manger de la manne, et puis ils disent mais qui nous donnera de la viande à manger ? Ils se mettent à récriminer. Vous voyez, c'est les épisodes de Massa, Meriba, etc. où ils font que râler contre Dieu alors qu'ils ont vu des prodiges. Et ça montre bien qu'un certain nombre se sont habitués à livrer, et qu'une partie de l'oppression, c'est aussi parce qu'il y a une tiédeur chez eux qui les a fait accepter livrer du pays où ils étaient, quoi. Le mode de vie égyptien, ou peut-être qu'on mangeait trop, ou peut-être qu'on on reconnaissait le roi comme Dieu incarné, comme le soleil, finalement, autoproclamé, mais enfin, voilà. Parce que les Égyptiens, ils pratiquaient beaucoup de choses occultes. On le voit, enfin, ceux qui vont découvrir les pyramides voient bien qu'il y avait un certain nombre de rituels qui étaient faits, et c'était pas des rituels uniquement pour faire joli, quoi. Voilà, donc on voit une contamination du peuple qui sûrement a dû ralentir l'intervention de Dieu en sa faveur, quoi. Parce que le peuple a crié sous l'oppression, mais il y a eu aussi un certain nombre de gens qui ont dit « Bon, bah tant pis, on s'accommode de ce mode de vie égyptien, et puis là, il arrête de nous persécuter, donc tant pis, maintenant on est esclaves, mais au moins c'est mieux que rien, quoi. » Voilà. Bon. Donc, les persécutions, la naissance de Moïse, qui est sauvé par l'adoption par la fille du Pharaon, il part 40 ans en exil comme berger. On oublie parfois qu'il est resté quand même 40 ans à préparer sa mission, à être berger, voilà. Il a eu l'appel au buisson ardent, et il a été envoyé en mission par Dieu, un petit peu à contre-cœur, il sait qu'il a pas mal négocié avec Dieu, et il se retrouve devant ses frères et sœurs hébreux, et puis il leur explique, et puis ils sont plutôt enthousiastes. Et en fait, quand il arrive devant chez Pharaon, il se retrouve tout seul, tous l'ont abandonné. Et puis là, il dit à Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. » Voilà. Donc il répète bien sagement ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Il mène sa mission de prophète, où il va finalement être intimidé et s'accrocher à ce qu'il a reçu dans sa vie de prière. Donc le Pharaon lui rétorque, « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur, je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, sinon il nous frappera de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Retournez à vos corvées. » Et Pharaon ajouta, « Maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées. » Donc ça, c'est ce que dit la Bible, la version en tout cas qui a été retenue dans nos Bibles officielles. Alors, on l'avait commenté un petit peu ce passage-là la dernière fois, et j'ai trouvé dans un Midrash, c'est-à-dire un commentaire juif fait par des rabbins, j'ai trouvé une glose faite sur ces textes-là, et je voulais vous la lire parce que c'est des gens qui ont médité un petit peu sur « mais que s'est-il passé ? Pourquoi disent-ils tout ça ?» Et je trouvais que le texte était intéressant, donc je voulais vous le lire. Rabbi Iya ben Abba dit, alors dans les gloses juifs, il cite toujours le rabbi qui a dit ça. Hein, voilà. C'est un peu comme si on faisait revenir le rabbi en question qui est devant nous avec sa barbe là, et puis qui nous dit, voilà moi ce que je peux vous dire sur ce texte. C'était le jour où Pharaon recevait les ambassadeurs étrangers, le jour où les rois du monde entier venaient lui rendre les honneurs, apportant en cadeau des couronnes dont ils le couronnèrent seigneur du monde. Ils avaient aussi apporté leurs idoles. À l'issue de ce couronnement, Moïse et Pharaon étaient toujours debout à la porte du palais du Pharaon. Les serviteurs de ce dernier vinrent lui dire « Il y a 2 anciens à la porte. » Parce qu'ils avaient 80 et 81 ans. Hein. Voilà. Et Pharaon répondit « Faites-les entrer. » Quand ils furent entrés, il les prit pour des étrangers qui voulaient le couronner ou lui présenter des lettres de créance, mais eux ne le saluèrent même pas. Il leur dit « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes les ambassadeurs du Saint béni soit-il. Que voulez-vous ? » Ils répondirent « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. » Alors là, on imagine bien, en fait, ils n'avaient aucun cadeau, ils n'avaient aucun présent. Ils venaient comme ça, ils ne saluaient même pas le roi des rois que tout le monde avait salué en s'aplatissant à terre. Et donc, il y a déjà un contraste par l'attitude qu'ils ont, parce qu'eux, ils viennent de Moïse, ils viennent voir le buisson ardent. Donc, ils voient Pharaon, ils disent, bon, comment je vais faire pour lui dire? Il n'est pas en train de s'aplatir devant lui. Alors du coup, là, on voit le Pharaon qui rentre en fureur et qui dit « Qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël ? Ne sait-il pas qu'il devrait plutôt m'envoyer une couronne au lieu de paroles creuses ? Je ne connais pas Yahvé, et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. » Pharaon leur dit « Attendez, je vais consulter mes archives. » Il entra alors dans son palais et examina tout ce qui concerne les dieux de chaque nation, en commençant par les dieux de Moab, Ammon et Sidon. Il leur dit alors, j'ai cherché partout dans mes archives le nom de votre Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé. Et donc, on voit bien que une partie de la fureur de Pharaon, il semble, que, enfin, d'après ce que disent ces rabbins-là, que ça soit le contraste en fait entre l'attitude attendue où ils vont flatter son ego, les deux Hébreux, et puis ils ne le font pas en fait. Ils sont en train de montrer la vérité parce qu'ils ont une attitude profondément humaine qui est bah, je m'agenouille devant Dieu, mais devant un roi, je montre du respect, mais sans en faire des tonnes. Quoi. Voilà. Les arguments de Pharaon, donc il y a le premier argument qui est qui est le Seigneur, qui est une manière de dire il n'existe pas, et puis c'est tout. Je l'ai souligné parce que le qui est le Seigneur trouve une conséquence, donc ça c'est aussi dans les commentaires juifs. Vous l'avez dans la colonne de droite. En hébreu, ça s'écrit « mi ». Et quand les rabbins disent qu'en inversant les lettres, ça s'écrit « yam », donc la mer. Et donc, c'est comme si Dieu lui avait répondu « Tu as osé douter et dire qui est le Seigneur, la mer te fera connaître qui je suis. » La mer qui va se rabattre sur toi et tes armées. Quoi. Voilà. Et eux, ils y voient une conséquence pratique de « tu. En plus, tu es roi, donc ta parole a une autorité particulière. » Et en disant « il n'existe pas, Dieu, le Dieu d'Israël n'existe pas, c'est une manière de continuer à semer insidieusement de l'athéisme dans son pays. Quoi. Voilà, premier argument, qui est le Seigneur ? Deuxième argument, donc, qui est le Seigneur et je ne le connais pas, et je ne laisserai pas partir Israël. Donc du coup, pour moi, le Seigneur n'est rien, il n'y a aucune raison que je laisse partir le peuple. Donc deuxième argument. Troisième argument, Moïse et Aaron. Je pense que l'insistance sur les noms révèle une manière un peu rhétorique de faire comme si la demande de Moïse à Aaron était purement humaine. Ce que vous demandez, ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu du tout autre, c'est votre petite volonté humaine. Voilà, on va rabaisser les projets de Dieu à quelque chose de très humain, de très terre à terre, et ça va discréditer un peu la parole de Moïse et Aaron. Et ensuite, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Je vous prête une intention mauvaise qui est, vous êtes des feignants, quoi, en fait, hein, et d'une manière masquée, vous en avez marre de travailler, donc vous cherchez l'oisiveté. Voilà. Donc là, on est sur vraiment, retournez à vos corvées. Dernier argument, maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu'ils se reposent de leurs corvées. Donc là, on est sur un argument utilitariste. C'est finalement, j'ai essayé tous les autres arguments. Finalement, il faut bien que l'économie tourne, quoi. Voilà, c'est un argument qu'on entend souvent, ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer de l'emploi de faire ça, quoi ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va limiter ça ? Enfin, il y a l'argument financier, quoi, l'argument économique. Voilà. Ah, économique, j'entends dans le sens coupé de l'homme et des racines profondes de l'homme. Cette première mauvaise plante, j'ai mis une colonne à droite si vous voulez, si vous avez besoin. La première mauvaise plante, pour moi, c'est l'incrédulité, quoi. Les Moïse et Aaron se prennent de plein fouet l'incrédulité de Pharaon, et avec un petit peu l'aboiement de celui qui, parce qu'il s'accroche à son incrédulité, et là il reconnaît quand même d'emblée, je ne crois pas en Dieu, et bien il va déployer d'autres arguments qui ne tiennent pas la route, mais qui sont là pour masquer cette incrédulité. Donc finalement, dans la mission, quand on va commencer quelque chose, parce que le Seigneur nous y appelle, on va se heurter à des arguments qui sont, si on réfléchit trop dessus, on va se casser les dents, parce que le fondement de ces arguments-là, c'est je ne reconnais pas le Seigneur, ou au moins, je ne pense pas que ça soit bon de faire ça, et donc je vais trouver d'autres arguments pour masquer ça, quoi. Voilà. On est un peu sur la deuxième étape, quoi. La première étape, c'était dans la partie intro du texte, enfin que j'ai classé dans intro, c'était je refuse de reconnaître la vérité qu'il y a une histoire, que Joseph a fait le bien, et c'est rendre justice à ce peuple que de l'honorer, ou au moins de le laisser tranquille. Donc je fais une offense à la vérité. La deuxième étape, c'est je ne reconnais pas Dieu. Vous voyez, et nous, dans notre pays, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à dire l'Église, il y a un problème avec l'Église, et puis la Révolution, c'est à cause des curés, tout ça. Et puis la loi de 1905, on a préparé les choses un peu comme ce qui s'est passé là au début avec Pharaon qui commence à dire finalement il faut se méfier d'eux. Et deuxième temps, bah, l'athéisme. Voilà. Parce que le terrain avait été préparé. C'est comme s'il y avait une première génération de semis avec des petites plantes pas terribles. Et la deuxième génération, c'est des arbres beaucoup plus gros et beaucoup plus néfastes, quoi. Voilà. Il y a les plantes pionnières dans un premier temps. Et deuxième temps, l'esprit d'athéisme. Pas l'athéisme, mais l'esprit, c'est-à-dire ce qui va animer les personnes qui va contaminer par l'incrédulité. Le pharaon va leur faire accélérer la cadence. Voilà, donc là, on est plus sur l'aspect persécution. Et donc, il y a une perte de repère, hein, parce qu'on va avoir envie de travailler le jour du sabbat. Alors pour nous, ça va être le dimanche. C'est-à-dire qu'on va faire des bêtises parce qu'on va être oppressé, quoi. Voilà. Pour la mission, pour revenir à la mission, Moïse et Aaron, pour ne pas tomber dans ce panneau-là de l'incrédulité, parce qu'ils tombent un petit peu dans le panneau, je pense, parce qu'ils disent « Le Seigneur risque de nous frapper de la peste ou de l'épée ». Jamais le Seigneur a dit « Sinon, je vous frappe de la peste ou de l'épée ». Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une forme de « Je me décharge un petit peu sur le Seigneur » et en disant « Bah sinon, c'est le Seigneur qui veut, mais moi, voilà, c'est pas moi qui ai demandé ça, voilà ». Mais je dirais que dans l'ensemble, eux, ce qui les fait tenir, c'est de répéter la parole du Seigneur en boucle, en fait. Ils sont là à dire, le Seigneur a demandé ça, le Dieu d'Israël a demandé ça, alors le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire, je donne un nom de Dieu qui est identifiable. Voilà, pour nous, ça va être dire Jésus, ça va être dire Dieu le Père, c'est-à-dire un nom de Dieu qui permet de savoir pourquoi on fait cette demande, quoi. Voilà. Je ne fais pas cette demande comme ça parce qu'il y a une religion X ou Y. La caractéristique des chrétiens, pour faire la lumière, c'est de donner un nom de Dieu, un nom qui soit identifiable. Comme là, ils disent le Dieu d'Israël, le Seigneur d'Israël, ou le Dieu des Hébreux. Autre élément qui permet de faire la vérité et un petit peu de combattre ces mauvaises plantes de l'incrédulité, toujours dans la première partie, c'est qu'il nous faut aller à 3 jours de marche. Donc 3 jours de marche, c'est le temps de la préparation, hein, parce qu'on trouve à d'autres endroits, par exemple, on trouve les 3 jours de marche en fait quand il s'agit d'aller monter sur le mont Sinaï, un petit peu plus loin, j'ai pas noté les références. Voilà, il y a une préparation de 3 jours. Voilà, 3 jours de marche. 3 jours de marche, c'est et c'est vrai que si on fait le parallèle dans l'Église, un certain nombre de mystiques disent, si vous voulez bien vous préparer à l'Eucharistie, commencez 3 jours avant, quoi. À dire Seigneur, ah là là, c'est dans 3 jours l'Eucharistie, voilà, il y a quelque chose de grand pour vaincre l'esprit d'incrédulité ambiant que d'avoir cette démarche-là de dire, le Seigneur, il nous dit, faites des petites choses pour vous préparer le cœur. 3 jours de marche dans le désert. Le désert, c'est aussi un lieu où on trouve Dieu. Voilà. Donc c'est pas quand on est en groupe, c'est pas voilà, faut se retirer dans sa chambre à un moment, ou dans son être profond en disant Seigneur, je te donne un peu de place, j'éteins la radio, toutes ces choses là qui sont un peu en germe dans la réponse de Moïse pour aller offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Voilà. Donc les différentes démarches. Hein. Le Dieu des Hébreux se présente à nous, donc ça ne vient pas de nous, c'est le tout autre qui nous a parlé. Voilà, c'est pas une émanation de la bonté ou de la malice qu'on a en nous, c'est quelqu'un d'autre, le Dieu tout autre, qui s'est présenté à nous. 3 jours de marche, donc il y a besoin d'une préparation, il y a quelque chose qui aide à le rencontrer. Dans le désert, donc il y a des lieux particuliers, il y a des conditions particulières pour se mettre en prière, pour aller offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus.